C'est sur l'Église que nous avons commencé quelque chose sur l'Église. Alors, je vous rappelle les deux versets que je vous ai donnés dès le départ. C'est 2 Timothée 3,15. Alors, si quelqu'un l'a, s'il veut bien le lire. 2 Timothée 3,15. C'est un verset à apprendre par cœur, hein. Un Timothée 3,15. Non, non. Oui, un Timothée 3,15. Excusez-moi. C'est moi qui ai dit... Voilà. Alors, ça, c'est un bon verset. L'Église du Dieu vivant, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Alors, ça, c'est une vérité absolue. C'est pas un institut biblique ni une faculté de théologie qui est la colonne et l'appui de la vérité. Ce n'est pas un orateur, ce n'est pas un livre, mais c'est l'Église. C'est l'Église fidèle, l'Église qui s'appuie sur Dieu, qui s'appuie sur sa parole. Et c'est là que l'on a la puissance et l'autorité qu'il faut pour défendre la vérité. C'est dans l'Église. C'est beaucoup de mouvements chrétiens ont choisi une autre option, c'est-à-dire les conventions. Et c'est vrai que les conventions sont importantes, c'est vrai que les instituts bibliques, les facultés de théologie sont importantes, mais on ne peut pas faire de cela l'appui de la vérité. C'est l'Église. Parce que le Seigneur Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Et c'est dans Matthieu 16, verset 18. J'espère ne pas m'être trompé dans la référence. Normalement, non. Mais si quelqu'un veut lire le verset 17 avant. Matthieu 16, versets 17 et 18. Le Seigneur Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». C'est la première mention de l'Église. Avant, l'Église est inconnue. On ne savait pas. Et en fait, il y a comme un projet de Dieu de l'Église. Alors bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et je pense d'erreurs qui ont été dites sur cette question de l'Église. On nous a dit que l'Église, moi, quand j'étais allé à l'Institut biblique, on m'a dit « C'est une parenthèse ». Voilà, il y a toute l'histoire et l'Église est une parenthèse, comme si c'était arrivé par hasard, par inadvertance. Voilà, le peuple d'Israël s'est pas converti. Le Seigneur Jésus est arrivé, il a annoncé la bonne nouvelle et finalement à la Pentecôte est arrivée et le peuple d'Israël ne s'est pas converti. Alors Dieu a rajouté 2000 ans d'Église. Et c'est les païens parce que le peuple d'Israël, comme si c'était le fait que Israël n'ait pas répondu nationalement, eh bien, Dieu avait un plan B. C'est l'Église. Mais je suis absolument contre tout cela. L'Église, c'est en fait l'aboutissement de l'œuvre de Dieu. C'est tout temps. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous avancez dans la révélation et vous voyez que de plus en plus la lumière est mise et pour arriver à quelque chose qui s'appelle l'Église. En fait, ce n'est pas le plan B, c'est le plan secret. C'est, si je puis m'exprimer ainsi, c'est le plan caché de toute éternité, mais révélé dans les derniers temps. Et c'est ce que Paul dit aux Éphésiens. C'est le mystère caché de tout temps. C'est, je ne sais pas ce qui disait que c'est une parenthèse, c'est mon professeur de doctrine. Là, je bondissais, hein. Je peux vous garantir que c'est des paroles qui me choquaient profondément. Mais il s'agit simplement de lire l'Épître aux Éphésiens et de voir que c'est le mystère caché. Ce n'est pas une parenthèse. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas révélée d'une manière claire dans l'Ancien Testament que c'est un autre plan que Dieu avait dans la manche pour au cas où le peuple d'Israël ne se convertirait pas. Mais Dieu avait dit, et dans l'Épître aux Romains, on trouve hein, que Dieu, des prophéties, ou dans Ésaïe, où il est dit que Dieu susciterait la jalousie d'Israël par une nation sans intelligence. Un peuple et la nation sans intelligence, eh bien, c'était les païens. Parce que justement, le peuple d'Israël se disait qu'ils étaient intelligents. Donc les païens donc, ne l'étaient pas. Et Paul fait une référence à la réflexion des rabbins qui disaient que les païens, qu'eux étaient intelligents. Ils avaient l'intelligence, mais donc les autres ne l'avaient pas. Et Paul dit, eh bien, c'est avec des gens sans intelligence, selon vous, que je vais vous parler. Et vous serez convaincus. Et j'exciterai votre jalousie. Mais donc, il y a beaucoup de références à l'Église. Quand la révélation s'est faite, eh bien, on se rend compte que dans l'Ancien Testament, il y avait des paroles prophétiques par rapport à l'Église. Et elles les étaient cachées parce que, il fallait que l'Église soit révélée. C'est le mystère caché de tout temps. C'est la sagesse même de Dieu. Quand il est parlé c'est toujours dans l'Épître aux Éphésiens, il est dit que les anges, quand ils regardent l'Église, apprennent la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire que les anges, leur Bible, c'est l'Église. Elle est non seulement la colonne l'appui de la vérité face à un monde perdu et corrompu et qui conteste la sagesse de Dieu, mais même les anges, quand ils regardent l'Église, apprennent la sagesse de Dieu et la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne devez jamais, jamais mépriser. L'Église, n'en parlez pas n'importe comment et prenez toujours soin de votre vie chrétienne dans l'Église, ailleurs aussi, mais par rapport à l'Église, votre comportement dans l'Église, dans le rassemblement de ceux qui appartiennent à Christ. C'est très, très, très important. Donc, c'est le problème. C'est de ce manque de respect qu'il y a pour l'Église dans notre période. Nous vivons un moment de l'histoire où l'Église n'est pas regardée avec sa vraie valeur. C'est si bien que un groupe de 3-4 personnes se réunit et ils disent nous sommes l'Église. Mais une Église, c'est beaucoup plus que cela. Beaucoup plus que cela. Ce n'est pas seulement des personnes qui se réunissent pour prier, mais c'est une organisation, un organisme. Un organisme est vivant, une organisation ne l'est pas forcément, hein. Mais un organisme est organisé, sinon il est mort. Et il est malade, il finit par mourir. Donc l'Église est vivante, vivante. C'est ce qui fait justement toute sa force. Si vous avez n'importe quel rassemblement au monde, ce ne sera jamais une église, même le plus spirituel possible. L'église est un corps vivant. Il y a une puissance dans l'église, c'est une puissance de vie, qu'il n'y a pas dans un rassemblement d'êtres humains. Même chrétien, même une convention chrétienne n'est pas le corps de Christ. Ce n'est pas une église, c'est un rassemblement de chrétiens. Mais l'église, c'est un groupe de chrétiens qui se réunit d'une manière organisée. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. L'Église est organisée, il y a des responsables et il y a des membres. C'est cela, l'Église. Eh bien, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Tandis qu'un rassemblement de chrétiens dans une convention, par exemple, j'étais dans une grande convention, ce qu'on appelait dans ce groupe une grande convention, on était 600 chrétiens, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites. Et eux pensaient qu'ils étaient une église, hein. Mais en fait ils ne l'étaient pas. C'est une convention, c'est tout. C'est un rassemblement de chrétiens. Même s'il y a beaucoup de choses, ce sont des chrétiens qui se rassemblent. Ce n'est pas une église. Et ce n'est pas la colonne et l'appui de la vérité. Il n'y a pas une puissance vivante. Même s'il y a une certaine puissance parce que les chrétiens sont là et ils sont vivants, ce n'est pas la même chose qu'une église. Une église dans une localité, son environnement, là où elle est installée, eh bien, est une lumière. Elle est vivante. Elle a une action. Elle a un témoignage. Et elle a un programme, un projet d'évangéliser, de convaincre les gens de se tourner vers Dieu. Il y a la puissance de l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont là et qui font que l'Église a un impact. C'est pas un rassemblement, pas un grand rassemblement, pas un groupe. C'est si bien que dans le monde, il y a une crainte de l'Église, de la véritable Église. Si bien que la véritable Église a toujours été persécutée, d'une manière ou d'une autre. Hein. Il y a toujours une persécution. Nous n'avons pas une liberté absolue d'annoncer l'Évangile. Il y a des restrictions, il y a des contradictions, et même de la part des autorités. Toujours, il y a une limite. Et il y a une surveillance de l'Église. Je me rappelle avoir vu entrer dans l'Église des personnes poseuses de questions. Ah oui, mais vous réunissez tous les... c'est les heures qui sont affichées, c'est ces heures-là. Ah oui, ah d'accord. Pas un autre moment. Non. Ah d'accord. Et combien vous êtes à peu près? Eh bien, ah d'accord, vous êtes... Ah, mais... Et puis, c'est des questions vraiment... et on sent que ça va rejoindre des données et un fichier et que les choses se sont organisées quand même. Il y a un œil, une surveillance. Donc, si vous ne vous rendez pas compte, il arrive parfois des personnes qui semblent un petit peu ce qu'on appelle en bon français paumées, qui posent des questions. C'est intéressant ce que vous faites, oui, et qui abondent dans notre sens et qui viennent pour des poseurs de questions. Et c'est parce qu'il y a une surveillance. Alors, tous les groupes qui se réunissent sont plus ou moins surveillés hein, dans notre pays, mais en particulier l'Église. Parce que l'Église, comme elle est vivante, aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes. Mais demain, ça ne veut pas dire que nous resterons le groupe que nous sommes. La semaine prochaine, nous sommes peut-être une centaine ce dimanche. La semaine suivante, on peut être 200. Et brusquement, quelque chose agit, parce que c'est la puissance vivante. L'Église est vivante. Donc ça, c'est quelque chose de très important à noter. L'Église est un corps vivant. Elle a une puissance de vie et de transmettre la vie. C'est par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui... ce n'est pas quelque chose d'humain. C'est quelque chose de divin. L'Église est une œuvre divine et qui a une action divine. Alors, ne méprisez pas. Jamais un petit groupe de chrétiens qui se réunit fidèlement pour marcher avec le Seigneur, qui institue un pasteur, des diacres et qui s'organise, eh bien, il y a derrière la puissance de Dieu. Même s'ils sont un petit nombre, ils peuvent devenir un jour un très grand nombre. C'est en très peu de temps, très très peu de temps. L'Église de Jérusalem a commencé, ils étaient 120 qui priaient dans la chambre haute après l'ascension du Seigneur Jésus. Et quand le Saint-Esprit est venu, d'un coup, eh bien, elle a grandi jusqu'à 5000. Et puis après 3000. À Éphèse, les gens se sont révoltés, les fabricants d'idoles se sont révoltés parce qu'ils ont dit l'Évangile nous ruine. Il y a eu une révolte parce qu'ils étaient ruinés financièrement, parce que les gens se détournaient du culte d'Artémis pour se tourner vers Jésus-Christ. Donc Éphèse, c'était une très très grande ville. Il y avait Éphèse et tous les environs. C'est la puissance de l'Évangile. En quelques années, Paul a prêché 2 ans à Éphèse. En 2 ans, il a ruiné le commerce des idoles. C'est pour vous dire, et les gens qui venaient, ce n'est pas seulement les Éphésiens qui venaient entendre pour le culte d'Artémis et acheter ces fameuses idoles en argent, Mais c'était d'ailleurs si bien que non seulement ils avaient perdu leur clientèle locale, mais même à l'extérieur, parce que c'était un commerce, les gens allaient acheter leurs petites idoles de toute la province d'Asie. Et Fès était une ville d'Asie, hein, donc une ville importante. Mais donc, il a ruiné le commerce. C'est pour vous dire la puissance de l'évangile. Au bout de 2 ans, ils avaient rempli la province d'Asie de la connaissance du salut qui est en Jésus-Christ. C'est la puissance de l'Église. Alors on dit, c'est la puissance de l'Évangile. Dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais c'est d'autant plus vrai quand l'Évangile est annoncé par une Église. C'est fait dans le cadre d'une Église. C'est souvent, il y a une œuvre d'évangélisation qui se fait hors, ce qu'on appelle hors cathédrale. C'est le hors de l'Église. Je ne veux pas être contre, hein. Je ne vous dirai pas que c'est mal. Mais je vous dis, c'est beaucoup mieux quand c'est dans le cadre d'une église, du programme d'une église. C'est une église qui évangélise son environnement. Et ce que Paul a fait, quand vous relisez ces chapitres des Actes des Apôtres, où il est question de son travail à Éphèse, il y avait un passage, hein, parce que comme il y avait le culte de la grande déesse à cet endroit-là, il y avait énormément de passages à Éphèse. Et Paul pouvait dire, une porte grande et un accès facile nous est ouverte. Donc il a pu bien, bien, bien annoncer l'évangile à tous ces gens qui passaient à droite et à gauche et tout. Et c'était dans le cadre de l'église d'Éphèse. Et je pense que cette église s'est constituée là, dans un quartier, puis dans un autre quartier, dans un autre quartier. Et brusquement, c'est devenu un embrasement. Et c'est comme cela que les choses se passent. Quand l'Église de Dieu est fidèle, qu'elle se soumet scrupuleusement à l'enseignement de la parole de Dieu, alors il n'y a aucun obstacle à ce que la propagation de l'Évangile se fasse et que les gens se convertissent. Il faut que l'Église soit fidèle. Que Dieu, eh bien, comment dire, travaille avec cette église. Parce que Dieu ne peut pas travailler avec une église infidèle. Une église qui tolère le péché. Une église qui tolère la désobéissance. Une église qui tolère des fausses doctrines. Qui tolère des choses qui scandalisent l'esprit de Dieu. Donc dès qu'une église est conforme, qu'elle est entièrement entre les mains de Dieu, eh bien à ce moment-là, elle est de la dynamite, hein, ça vient du grec dynamos, c'est la puissance explosive de la parole de Dieu dans l'Église, quand Dieu travaille au travers d'une Église. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, je bâtirai mon Église, parce que Dieu travaille au travers de son Église. Et nous, beaucoup d'organismes sont créés aujourd'hui, alors vous avez des multitudes, je pourrais citer une dizaine de noms comme cela, qui travaillent en dehors de l'Église. Même si je ne les désapprouve pas, mais je pense qu'il y a un désaccord avec la parole de Dieu, parce que ça doit être fait dans le cadre d'une Église, pas dans le cadre d'un groupe comme ça d'évangélisation. Qui est spécialisé dans l'évangélisation et qui prend des personnes à droite et à gauche de tous les bords. Et voilà, on a un groupe d'évangélisation. Alors il y a Juifs pour Jésus, il y a machin chose, un qui me vient à l'esprit, hein, parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps. Et puis d'autres comme Armée du Salut, et une chose et puis une autre. Ce ne sont pas des églises. C'est un travail d'évangélisation hors de l'église. Il y a une bénédiction de Dieu, j'en suis conscient. Mais ce n'est pas la grande puissance de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus a fait une promesse. Il a dit, je bâtirai mon Église. Et ça, c'est quelque chose de solide. C'est la parole de Dieu. C'est l'Église. C'est le travail de l'Église. Alors ces associations et ces groupes d'évangélisation ont comme excuse et disent, ben, puisque l'Église n'évangélise pas, nous nous sommes organisés pour évangéliser. Alors, l'Église n'évangélise pas les Juifs, alors nous, nous évangélisons les Juifs. L'Église ne fait pas ceci, alors nous, nous le faisons. Et c'est une excuse, un prétexte. Mais faites bien attention. Il y a une tolérance de Dieu, heureusement. Mais c'est dans le cadre de l'Église que ces choses-là doivent être faites. Toujours. Ne vous laissez pas prendre au truc de vous dire, ah oui, mais là, on va faire un camp cet été et on va aller évangéliser à tel endroit et il y a une église derrière. Non, 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 il n'y a pas d'église, mais c'est l'organisme, c'est le groupe qui le fait. Ah oui, mais là, il y a un problème. Il faut qu'il y ait l'église. C'est le plus important. Parce qu'il y a une puissance que vous n'imaginez même pas. Et puis qu'un être humain ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer. L'Église peut s'enflammer d'un coup. Il peut y avoir quelque chose d'immense qui se fait parce que c'est la puissance de Dieu qui est avec l'Église. Elle est vivante. C'est tout ce que je peux dire, c'est mon plus grand argument, c'est qu'elle est vivante. Après, le reste, eh bien, n'est pas vivant de la même manière. Voilà. Même s'il y a de la bonne volonté, même s'il y a de l'énergie, même s'il y a le Saint-Esprit aussi, s'il n'y a pas le commandement de Dieu, c'est la promesse de Dieu qu'il bâtirait son Église. Donc il n'a pas dit qu'il bâtirait le mouvement un tel et toutes ces choses-là. Il bâtit son Église. Et c'est ça qui est important. Voilà, je ne vais pas aller plus loin ce matin.